l'explosion de l'Église primitive. Et hier, longuement, nous avons parlé de la puissance du lieu. Et aujourd'hui, à ces premiers cultes, je pense que nous aborderons les deuxièmes et peut-être les troisièmes secrets. Et puis au deuxième culte, nous aborderons les quatrièmes secrets. Donc, de telle sorte que si vous voulez avoir la totalité, essayez de chercher les CD. Et comme ça, ceux du deuxième culte, ils chercheront les CD du premier culte. Parce que si j'essaye de tout apporter, il est possible que nous ayons un culte étométrique et que le deuxième culte soit consommé dans le premier. Alors, je n'aimerais pas tomber dans ces pièges. Je voudrais lire avec vous quatre portions des Écritures, de toutes petites, et puis les deux autres ayant peut-être trois ou quatre versets. Alors, nous lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 10, jusqu'au verset 16e. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, et c'est là vraiment le plus important de cette portion, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Verset 16, « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 20. Verset 24. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Soulignez bien les mots, ma course avec joie, et les ministères que j'ai reçus du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous lisons aussi Matthieu, chapitre 4. Matthieu, le seul. Chapitre 4. Verset 18 à 19. Matthieu 4, 18 à 19. Comme il, c'est de Jésus dont il s'agit, il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et enfin, je termine avec deuxième épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée dans son chapitre 4e, et nous lisons le verset 6, le verset 7, ainsi que le verset 8. Car pour moi, je sers déjà des libations et les moments de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le deuxième secret par rapport à l'éclosion, c'est que ceux de l'Église primitive, ils avaient la notion du but. Ils avaient la notion du but. Le mot but cache trois idées principales. Premièrement, le mot but veut dire le pourquoi d'une chose. Le pourquoi d'une chose. C'est pourquoi une chose existe. C'est pourquoi une chose a été créée. Deuxième sens du mot but, le but c'est la destination finale d'une chose. La finalité d'une chose, ce qu'elle est censée faire ou accomplir. Et troisièmement, but veut dire ce pourquoi une chose a été appelée à l'existence et qu'elle est censée accomplir. Et ceux de l'église primitive, ils avaient le sens du but. Le passage que nous avons lu, surtout les trois premiers, nous le montre clairement. Autant Pierre et André, ils étaient des pêcheurs, ils prenaient des poissons naturels, mais le jour où Christ les a rencontrés, il les a focalisés sur un but. Je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Vous ne ferez plus rien d'autre. Ce sont les hommes qui seront votre cible. C'est la transformation des hommes. Et quand il appelle Saul de Tarse, il envoie Ananias, et dès les premiers pas de sa marche, et dans le Seigneur, et dans le ministère, il lui fixe un but. Va dire à cet homme qui il est. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les grands, devant les nations. J'aimerais qu'il sache qui il est. Et ce que j'aime, c'est que Paul, tellement conscient de son but, qu'il les rappelle, veut me faire retourner, Actes des Apôtres 20, au verset 24, quand il est en train de prendre congé de l'église d'Éphèse, il prononce ces paroles profondes. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, mais dit, pourvu que j'accomplisse ma course. Les mots course, là, veut dire trajectoire. La trajectoire qui m'a été donnée. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Et par rapport au but, j'aimerais ce matin vous parler des 8 principes qui vont nous aider à réaliser ce que l'Église primitive avait eu à faire, afin que, Dieu voulant, vous et moi, nous puissions soit maintenir les choses que nous pratiquons, corriger celles que nous ne pratiquons pas bien, ou peut-être réajuster. Le premier principe, c'est que Dieu est un Dieu de but. Dieu est un Dieu de but, c'est-à-dire il ne fait rien pour rien. Dieu n'est pas un fantaisiste. Dieu est un Dieu de but. Proverbe chapitre 16, verset 4, un merveilleux passage. Et ça, c'est Salomon qui a eu à découvrir cela. Il a étudié la vie, il a observé. Et quand Salomon observe, il arrive à cette conclusion dans Proverbe 16, au verset 4, il dit « Dieu a tout fait pour un but. Dieu fait tout. L'Éternel a tout fait pour un but. » Et la Bible ajoute « Même les méchants pour les jours du malheur. » Dieu a tout fait pour un but. J'ai un jour à suivre un documentaire et il y avait comme une forme de contradiction au départ. Certains disaient, dans les corps de l'homme, on ne voit pas trop l'importance de l'appendice. Et que si on pouvait enlever l'appendice, l'homme vivrait sans problème. Et des études récentes ont montré qu'il y a des bactéries spéciales qui contribuent à la digestion. Et que quand l'appendice est coupé, on a quelque chose en moi. C'est pour ça que j'aimerais dire, Dieu n'est pas un fantaisiste. Il ne fait rien pour rien. S'il fait quelque chose, il y a un but. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous et moi, nous puissions savoir que notre passage sur terre ici est attaché à un but. Il y a une raison d'être. Dieu ne nous a pas envoyés simplement sur terre pour venir durant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, expirer, inspirer. Et puis un jour, il y a un tout dernier battement de cœur et ça s'arrête. Aidez-moi à poser la question à votre voisin. S'il n'est pas content, vous lui direz, c'est pas moi, c'est le pasteur. Posez-lui la question, touriste ou missionnaire sur terre? Qu'il y ait des gens qui entrent dans la vie par la naissance et en sortent par la mort sans savoir les pourquoi ils ont vécu. Dieu est un Dieu de but. Deuxième principe, c'est que tout ce que Dieu a appelé à l'existence a un but attaché à lui. Tout ce que Dieu a appelé à l'existence a un but attaché à lui. Une chose ou un homme. Dieu n'appelle jamais à l'existence pour rien. Et j'aime beaucoup le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le livre des commencements. Mais c'est là où aussi les principes sont établis. Lisez avec moi Genèse au chapitre 1er, verset 14 au verset 18. Et qu'est-ce que j'aime ce passage? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Remarquez que les luminaires n'ont pas demandé d'exister. C'est Dieu qui les a pensés et c'est Dieu qui les a appelés à l'existence. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Mais directement, il est dit pour. Dites avec moi pour. Existence et raison d'être. J'appelle à l'existence, mais je donne une finalité. Luminaire, je ne vous appelle pas simplement pour égayer le ciel. Le but que je vous donne, pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, encore une fois, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Allons-y, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire, pour présider au jour, un timing, but et timing, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour, encore une fois, éclairer la terre. Verset 18, et pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Troisième principe, quand Dieu nous fixe un but, il nous équipe pour cela. Dieu ne confie jamais une tâche sans équiper pour la tâche. Je veux même revenir à ce passage de Genèse 1, 14 à 18. Quand il fait les luminaires et il fixe un but pour présider, il met dans les luminaires la capacité de produire la lumière. Dieu sera un Dieu irresponsable que de nous confier une tâche s'il ne nous équipe pas en mettant nous la chose pour faire ce pourquoi il nous confie une tâche. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelquefois, si vous n'avez pas reçu un appel audible, vérifiez en vous qu'est-ce que Dieu a placé. Quelles sont les aptitudes? Moi, quand j'étais étudiant, j'aimais bien les lettres, j'aimais bien l'histoire, mais dès que c'était les mathématiques, physique, j'avais des maux de tête. Mais il y a des gens pour qui trigonométrie, c'est piece of cake, diront les anglophones. J'ai un ami, les théorèmes compliqués, et il finit ce qu'il fallait démontrer. Intelligent. Un jour, je lui dis, toi, j'ai l'impression que tu as des morceaux de cervelle qui sortent par les oreilles. Tellement intelligent. Ce n'est pas en vain que Dieu vous donne des aptitudes. S'il vous donne ces aptitudes, c'est pour un but. Un but des fois que vous et moi, nous ignorons, mais que Dieu sait. 1 Samuel chapitre 16, au verset 18. Ce jeune homme, il était étonné. Il avait comme un embouteillage d'aptitude. La première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu mettrais autant dans un seul homme? Le roi Saül a un problème et on cherche quelqu'un pour être le canal par lequel solution peut être trouvée à son problème. Écoutez ce que la Bible dit. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, je viens un fils d'Isaïe, Bethlehemite, un qui sait jouer. D'autres versions disent, virtuose. Il joue pas bien, il joue très bien. Première qualité. Deuxièmement, c'est un homme fort et vaillant. Troisièmement, c'est un guerrier. Et quatrièmement, il est éloquent. Il parle bien. Bon, et puis, il y a le côté cosmétique. D'une belle figure. Et cinquièmement, Dieu était avec lui. On a l'impression que c'est des qualités qui peuvent habiter dans cinq personnes. Mais Dieu les place dans une seule personne. Pourquoi? Il rêvait d'un roi qui allait accomplir le but que lui, il avait. J'aime pourquoi quand Actes 13, 36, parlant de David, il a servi au dessein de l'Éternel en son temps. Dieu avait des buts au ciel pour sa nation et pour ses buts, il cherchait un homme. Mais pour que cet homme remplisse ses tâches, il a équipé. J'ai pris qu'à la fin de ce message, que tu puisses regarder, qu'est-ce que tu as placé en moi? Est-ce que je peux continuer? Quatrième principe, on peut vivre sans but, et surtout sans connaître son but. Comme je le disais, que les gens qui entrent dans la vie par la naissance et qui en ressortent par la mort, sans connaître les pourquoi, gâchis, gaspillage. Je vais vous poser la question, pourquoi êtes-vous venu sur terre? Que c'est triste de vivre ainsi. Que c'est triste de passer plusieurs années sur terre sans connaître le pourquoi Dieu nous a voulu sur terre. Et comme l'avons lu au départ, à un moment de leur vie, et Pierre, et surtout Paul, ont connu le pourquoi de leur existence. Et je me réouvrirai une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire que vous n'aurez véritablement la révélation de vous-même que si vous avez la révélation de Dieu. C'est dans la mesure où nous avons la révélation du Créateur qui nous donne la révélation de nous-mêmes. J'aime beaucoup ce passage de Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Il a toujours marché avec le maître, mais apparemment le maître lui gardait des secrets concernant le but de sa vie. C'est le jour où il a la révélation du maître, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alors le Seigneur dit, je ne veux plus te cacher. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne provoqueront point contre elle. Seigneur, aide-moi à savoir qui je suis. Aide-moi à savoir qui je suis. Exactement. Nous l'avons mentionné, acte 9, 15. Ananias va dire à Paul qui il est. Il a longtemps été au Sanhédrin. Il a étudié au pied de Gamaliel. Il a plein d'atouts. Mais j'aimerais qu'il lui dise qui il est dans mon plan. Et c'est que je veux qu'il puisse jouer comme partition. Cinquième principe, c'est que la connaissance du but est d'une grande importance dans la vie. La connaissance du but est d'une grande importance dans la vie. Très grande importance. Et parmi les choses qui sont attachées à l'importance de la connaissance du but, avec la grâce de Dieu, j'en mentionne à trois. J'espère que vous me souvenez bien, nous sommes toujours dans les 5. Ça me rappelle un peu mon professeur de droit constitutionnel qui faisait les 1-1 et puis les 1-1-1. Et puis vous retournez aux 2. Donc quelquefois, si vous ne suivez pas bien, vous pouvez vous perdre. Donc je suis toujours dans les principes, mais les 5e. Mais sous point 1. La connaissance du but, premièrement, vous donne un sens des directions. C'est-à-dire vous savez où vous allez. Qui suis-je? Où suis-je en train d'aller? J'aime beaucoup les Quinois. Ils savent bien dire des choses. Chez moi, à Kinshasa, pour parler des gens qui manquent de direction, ils disent, vivez là. Ça sont les Quinois, ils sont forts. Ils disent même, ils vivent autour du jour. Sans direction. Est-ce que vous vivez là. Ou vous avez un sens de direction. Deuxième chose, c'est que la connaissance du but vous donne une raison d'être. Vous savez pourquoi vous êtes sur terre. Troisième chose, la connaissance du but vous donne la passion. J'ai à peine 50 ans. Je me suis rendu compte que sur le chemin de la vie, l'argent n'est pas tout. On peut gagner l'argent, mais sans passion. Dès l'instant où Dieu m'a appelé au ministère, j'aime un peu la prédication, pas beaucoup. J'en parlais hier ou avant-hier avec les amis. Dans la pastorale, j'aime les entretiens pastoraux. Quand j'ai les entretiens avec les gens au bureau, je me sens bien, je me sens comme un singe sur un arbre. Ça me passionne. Je me sens moi. La connaissance du but vous donne la passion. Qu'il est merveilleux chaque matin parce qu'on connaît son but. On se lève pour aller faire ce que l'on doit faire, mais avec joie. Quand on manque de but, quelque chose n'a usé. Je dois aller encore. On y va pour l'argent. C'est pour cela que je dis l'argent n'est pas tout. Il y a des choses pour lesquelles j'ai ri entre les mains, mais qu'est-ce que je me sens bien. Kobe, quand j'enseigne que les gens sont édifiés, quand je chasse les démons et qu'ils obéissent, c'est que nabimi, bon, naoukara, bien mon Kobe. C'est ma passion. J'ai commencé à servir le Seigneur en 89. J'avais à peine 25 ans. Mais de décembre 2006, quasiment jusqu'en décembre 2007, j'ai passé quasiment une année sabbatique où je n'ai pas prêché. C'est là où je me suis rendu compte que le ministère me manquait. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais fait pour ça. Qu'est-ce que vous faites avec passion? Et la connaissance du but vous apporte passion. Luc chapitre 1er, versets 13 à 16. Je me réinsiste, ça remonte dans mon cœur. L'argent n'est pas tout. Que les gens qui sont prêts à tout pour l'argent. J'ai vu des gens se battant, travaillant ici. Il a beaucoup d'argent, mais pas épanoui. Pas une joie. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli d'Esprit Saint dès sa mère, verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il connaissait son but. Moi, je vais simplement ramener. Jean chapitre 1er, versets 6 à 8. La Bible nous parle de Jean Baptiste, et c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour, et j'aime encore ça, pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il savait ce qu'il n'était pas, mais il savait aussi ce qu'il était. Ça vous donne de la passion. Sixième principe attaché au but, c'est que la connaissance du but vous donne un sens du devoir accompli au soir de votre vie. La connaissance du but vous donne un sens du devoir accompli à la fin de votre course. Qu'il est bon de mourir comme le maître. Quand il meurt sur la croix, il dit, tel est telestai. Tout est accompli. Il dit, j'ai atteint l'objectif. Et l'une des plus belles manières de mourir, c'est celle de l'apôtre Paul. 2 Timothée 4, 6 à 8. Et il part de lui-même, il utilise des termes imagés. Il dit, pour moi, je sers déjà des libations. La libation était un sacrifice liquide qu'on prenait d'un bocal et on jetait totalement jusqu'à la dernière goutte. Et il veut dire que les dernières gouttes de ma vie vont bientôt tomber. Et il parle de sa mort de manière poétique. Il dit, le moment de mon départ approche. Mais j'aime ce qu'il dit. J'ai combattu le bon combat. Et puis il dit, j'ai achevé la course. Je voudrais tellement au soir de ma vie prononcer de telles paroles et tellement conscient qu'il a atteint son objectif qu'il réclame même déjà la rétribution. Il dit au verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Quelle belle manière de mourir. Combien d'années me reste-t-il? 30, 40, 50? Quand partirai-je? Sera-ce un matin? Sera-ce un soir? Je ne sais pas. Vais-je partir d'une mort calme et naturelle sur un lit? De quelle manière cela va se passer? Mais j'ai conscience que les années de force, il y en a plus derrière moi que devant. J'ai conscience qu'un jour, il y aura un tout dernier battement. Ces muscles qui pompent le sang, dans tout mon corps, il y aura un tout dernier mouvement et puis ça va s'arrêter. Et les gens diront, c'en est fini des Roland Dallon. Comment partirai-je? Avec le sens du devoir accompli. ou avec quelque tristesse. J'ai vu dans la Bible les gens qui ont connu leur but et qui sont partis paisiblement. Lisez avec moi Genèse 40, 49, verset 33. Jacob avait d'abord appelé ses enfants, au verset 1er, il dit, rassemblez-vous, je vais vous montrer ce qui va arriver dans la suite. Et lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans les lits et il expira. Il parle et puis il retire ses pieds et c'est la fin. Mais j'aime encore mieux ce que Hébreux chapitre 11 nous dit de la même scène. Merveilleux passage. Hébreux chapitre 11, verset 21. Waouh. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Merveilleuse manière de finir la course. Il est mort en disant, merci Père, pour toutes ces années que tu m'as données. Tu n'as pas été parfait. J'ai quelquefois commis des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, mais tu as su me rendre capable de réajuster. Mort en train d'adorer, sentiment du devoir accompli. Mais allons-y encore, un roi, au chapitre 1er, verset 2, verset 1er, puis au verset 2e, un roi, chapitre 2, verset 1, le roi David était vieux, chapitre 2, le roi David approchait du moment de sa mort, il sentait cela. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, waouh, écoutez comment il aborde la mort avec sérénité. Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Et quand il parle comme cela, comme un rétroviseur, il voit un royaume chancelant qu'il avait trouvé. Un royaume pas fort économiquement, un royaume pas craint par ses aînés. Mais il voit comment il en a fait une force, qu'il est merveilleux de contempler son travail. Il est parti. Connaissance du but vous donne un sens du devoir accompli. Je voudrais tellement mourir comme Siméon. Siméon est conscient d'avoir tout accompli. Il dit, Seigneur, maintenant, tu peux prendre ton serviteur. Je ne veux plus traîner. J'ai fini la course. Septième principe. C'est qu'au but est attaché un temps ou une saison. Au but est attaché un temps ou une saison. Donnez-moi acte 13, verset 36. Il est dit de David, « Or David, après avoir en son temps, les mots temps là en grec, ça veut dire aussi saison, servi au dessein de Dieu. Il y avait des desseins de Dieu, il y avait des buts de Dieu, mais à ces buts était attaché une saison. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rater votre saison. Il faut l'identifier et l'atteindre pleinement. Pasteur Hugues, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Je suis dans le Seigneur depuis 85. Il y a 15 ans, je n'étais rien dans l'œuvre de Dieu à Kinshasa. Parce que ce n'était pas ma saison. Roland Dallo, personne ne connaissait. Mais j'ai su aussi que dans 20 ans, dans 25 ans, avant que Ken et les autres ne me chassent, d'autres prendront la relève. Mais j'ai conscience que c'est temps Dieu me l'a donné. Et il est bon que je fasse le maximum avant que je commence à souffrir des maladies compliquées, lumbago, où tu fais tomber une clé, tu veux ramasser, il faudra une grue pour qu'on vienne te relever. Le corps sera disposé à faire, plutôt l'esprit sera disposé à faire des choses, mais le corps ne va pas suivre. Au but est attaché à un temps. C'est pour cela que quand vous découvrez votre but, faites tout ce que vous pouvez faire au bon moment. Il y a des livres que vous ne pouvez écrire que maintenant. Il y a des choses que vous ne pouvez produire que maintenant. Je me suis rendu compte que le temps passe vite. Quand je regarde ma vie, je vois petit garçon quand j'ai grandi ça à Bandal, 69. Je vois 69 quand les astronautes américains ont marché sur la Lune, Apollo 11. Et puis après, ils sont venus à Kin. Je les ai vus sur Victoire. J'entends certains dire, ah, bah, il y a rien à Kin, mais c'est tout beau, t'as. Je vois encore 74, combat Ali Foreman. Ali Boumier. Il y a plein d'images qui me reviennent. Je vois encore en 67, j'avais 3 ans, mon père m'amène au grand stade et Mobutu donna un discours retroussant les manches. Je vois encore ces années-là quand on disait objectif 80. On avait l'impression que 80, c'était loin. Quand on disait l'an 2000, on disait... Et aujourd'hui, on est en 2014. Je revois encore quand j'étais petit garçon, on jouait au bill, on appelait ça du bon, je ne sais pas pourquoi. Tour de France. Le temps est tellement passé vite. Je suis étonné aujourd'hui d'être père et bientôt grand-père. Et très bientôt, on me dira, allez, sors. Chez nous, il y a un bon joueur qui a joué dans mon thème à Pembe qui était bon, mais vers la fin de sa carrière, il ratait tellement de buts que quelquefois, quand il était sur le terrain, les gens commençaient à chanter « Yemouini Bima, Yemouini Bima ». Et je vais jouer ma partition avant aussi qu'on commence à dire « Dalo, Bima, on peut passer qu'à Kenye, Bima ». Au but est attaché un temps. Un temps. J'aimerais terminer en touchant ce dernier principe. C'est que la connaissance du but influence nos associations. La connaissance du but influence à nos associations. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais surtout dire aux jeunes gens, vous qui ne vous êtes pas mariés, mariez-vous bien. Vous avoir des buts que Dieu vous a donnés. Si vous vous attachez à la bonne personne, cette personne va exercer un effet comme de l'engrais. Va vous aider à devenir les gens des personnes que Dieu a voulu. Mais vous vous attachez à la mauvaise personne. Pesanteur. J'aime dire aux jeunes gens, bon, c'est vrai, il ne faut pas négliger l'emballage quand vous voulez vous marier. Mais l'emballage n'est pas tout. J'ai vu des gens avoir des partenaires sexuels, mais manquer des partenaires pour la vie. Quelqu'un qui ne vous est utile que sur le plan intime, mais qui ne vous propulse pas dans votre devenir. Qui ne vous aide pas à devenir. Je ne dirai jamais assez merci au Seigneur. Certains me voient des fois me tenir, parler avec assurance. Je suis un garçon qui a grandi avec beaucoup de complexes. Je ne croyais pas beaucoup en moi-même, j'avais beaucoup de doutes sur moi-même. Dieu a placé quelques aptitudes en moi, mais je ne voulais pas trop prendre les devants. Et Dieu s'est servi de celle qui est devenue mon épouse pour me faire gagner en assurance. Dès l'instant où je l'ai connue, des fois quand elle parlait de moi, je dis, est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre en moi que je ne vois pas? Dès la première semaine de nos fiançailles, elle me regarde dans les yeux et dit, Roland, tu iras loin dans la vie. Roland, tu sais que tu es intelligent. Roland, quand je t'entends prêcher, je suis épaté. Roland, tu n'as aucune idée. Et quand il me parlait comme ça, même après, la démarche a changé. Mais tu épouses quelqu'un qui t'abaisse comme les femmes quinoises savent abaisser. Elle te regarde comme ça, elle dit, mi bali, ma bala. Dieu, ça c'est terrible. Mi balé. Ma bala. Batanga mi balé. Batanga bé. Oh! Jeune fille, ne vous attachez pas à n'importe qui. J'ai vu des jeunes filles dans lesquelles Dieu a placé beaucoup d'atouts et beaucoup de buts, qui s'attachent à un mari, permettez-moi les termes, qui les transforme en pondeuses. Bota main qui me tique à la Hollandaco. Donne-moi quelqu'un qui va m'aider à aller de l'avant. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 2. L'église d'Antioche est réunie. J'ai dit 13? Pardonnez-moi. Actes des Apôtres, oui, 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode, les Tétraques et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans le ministère, qu'ils jeûnaient le Saint-Esprit, dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Versets 4 et 5, ils connaissent les buts et maintenant ils choisissent des partenaires. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Verset 5, arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient pour aide Jean. Parce qu'ils connaissent leur but, ils choisissent ceux qui peuvent les accompagner. Et Jean les aidait à faire tout ce qu'il y avait comme travaux manuels. Et ils prêchaient, ils préparaient leur lit, ils préparaient leur nourriture. Si vous connaissez votre but, vous saurez à qui vous associer. J'ai vu quelquefois des jeunes filles décider d'un partenaire de vie sur des critères au rabais. Pasteur, moustache, naïl des... Moustache! Moustache, ma favori, mais il sera un frein pour ta vie. Une autre me disait, pasteur, c'est comme s'il mange des dictionnaires au petit déjeuner. Est-ce que c'est le seul critère? J'étais un jour à l'église de la Borne, mes oreilles sont déjà grandes et j'ai tendance à capter les informations rapidement. J'étais en train de suivre un mariage et puis une jeune fille passait. Et deux jeunes gens, et c'était juste derrière moi. J'ai entendu l'un d'eux dire, j'essaierai de le dire en lingala, j'essaierai de voir si je peux en arriver à les traduire en français. Il dit à son ami, oh ma petite akobala, ma kolokola, ma kosobo. C'est le seul critère. Elle peut avoir les macros, mais menteuse avec M majuscule. Et tu verras la même personne laisser cette femme au macros et commencer à suivre une autre femme ayant des jambes comme des joueurs de rugby. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu fait savoir Adam, le but. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Il lui a d'abord confié le but et c'est après le but qu'il a choisi le partenariat. Verset 18 et verset 22. D'abord le but. Et puis l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ai fixé un but. Mais pour qu'il atteigne ce but, il est bon que je lui apporte. Et la personne qui dit une aide, quelqu'un qui va lui apporter un plus, un bonus, choisissez les personnes qui vont vous apporter un plus. Et ce que j'aime, c'est que dans à compter sur Dieu, le verset 22 dit quoi? L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. J'aimerais vous dire, associez-vous à Dieu, il vous amènera cette personne qui sera un plus. Homme de Dieu, vous qui êtes marié, je ne sais pas ce qu'il en est de vous. J'ai passé des jours et des jours en train de prier. Seigneur, je ne vais pas me tromper dans mon choix. Je vais être sincère, il y a des jeunes filles qui m'ont fait battre le cœur. D'autres, j'ai fait des méthodes d'approche. Mais à la fin, Dieu m'a dit, pas elle. Je ne dirai jamais assez merci au Seigneur de m'avoir donné Viviane Malembangiba. Un jour, je la regarde, je dis, toi, si tu n'avais pas existé, je t'aurais créé. Un homme de Dieu, pas un homme de Dieu, un philosophe a dit, dans tout le cas, mariez-vous. Dans tout le cas, mariez-vous. Il dit, si vous vous mariez bien, vous serez heureux. Si vous vous mariez mal, vous serez philosophe. Et lui-même, il était philosophe. Vous savez, un bon mariage vous transforme en adorateur. Un mauvais mariage vous transforme en intercesseur. Y a-t-il des mariés ici? Levez la main. Alors posez la question à votre voisin marié, intercesseur ou adorateur? J'ai été étonné. En 95, avant que je n'aille à Nairobi, un homme vient me voir dans le bureau et dit, pasteur, il dit, un colonel à Kamata. Fatigué d'elle. Et moi j'ai prié, Seigneur, ne prends pas encore Viviane, qu'elle reste. S'il te plaît, un colonel à Bondelio. Ah, vous mettez encore. Dieu m'a beaucoup donné au travers d'elle. Et je sais que les gens ont des prières que je fais quelqu'un d'autre s'il peut faire cela. Alors je termine ce dimanche matin en touchant la troisième clé. Troisième secret, c'est que c'était des hommes et des femmes de foi. La foi. Ils ont connu l'éclosion parce que la foi était un ingrédient. Par hommes et femmes de foi, je me redis trois choses. Premièrement, ils croyaient en Dieu. Un Dieu qu'ils connaissaient. Deuxièmement, ils croyaient en ce que ce Dieu disait les concernant. Et troisièmement, ils agissaient. Des hommes de foi. Il a pris des hommes, n'importe qui, dans Matthieu 4, verset 19, il dit, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Ils ont cru en cette parole. Ce qu'il a dit que nous allons devenir, nous le deviendrons. Il a cru. Et il a parlé. En étudiant la vie des héros dans la foi dans la Bible, on en arrive à quatre conclusions attachées à la foi. Et je vais m'arrêter là. C'est dimanche matin. C'est que premièrement, la vraie foi a Dieu comme source. La vraie foi a Dieu comme source. C'est-à-dire sa parole et sa promesse. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que, un, que Dieu existe, et deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une récompense attachée au fait de le rechercher. Acte 27, verset 24, alors que l'apôtre Paul est dans ses bateaux, en route pour Rome, il dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu et m'a dit, mais j'aime ce qu'il dit, j'ai cette foi et cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. La vraie foi à Dieu comme source. Deuxième principe, c'est que la foi est un moteur. La foi est quelque chose qui fait vivre et influence celle ou celui qui la possède. Un moteur. Je voudrais lire un bouquet de passages pour voir les œuvres que la foi a pu conduire. Vas-y avec moi dans Hébreux chapitre 11. Nous partirons du verset 7 jusqu'au verset 23, mais je prendrai quelques versets par-ci, par-là. La vraie foi est un moteur. J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que votre foi vous fait faire? Écoutez ce que le verset 7 à 9 dit. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver. Jamais il y a eu de déluge. On l'a vu fabriquer un grand bateau qui pouvait contenir. Noé, qu'est-ce que tu fais? La foi est un moteur. La foi vous fait voir ce que les autres ne voient pas. La foi vous fait voir l'invisible. Et la foi vous fait saisir cet invisible. Je me redirai à quelqu'un, ce que vous possédez réellement, c'est ce que vous possédez par la foi. Verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. J'aime la suite. À qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Mais 19, waouh.
Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts.
Alléluia.
Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il allait offrir Isaac, il devait les couper en morceaux. Mais à Isaac était attaché les promesses. Il était comme devant une contradiction. Dieu a dit que c'est dans Isaac que vont s'accomplir les promesses. Mais quand il allait offrir, il disait, je ne sais pas, je vais couper Isaac en morceaux, mais je sais aussi que je rentrerai avec Isaac vivant. Parce que je sais que Dieu est capable même de ressusciter. La foi est un moteur. Versets 20 à 21. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. On vit des choses à venir. Et il est dit, quand Isaac a béni Jacob et Ésaü, il leur a confié les territoires des Canaan qu'il n'avait pas. Que Dieu avait donné à Abraham. Il dit, Abraham, je te donne Canaan. Il n'a pas les livrés parcellaires. Et Abraham, par la foi, les donne aussi. Et Isaac, avant de mourir, il appelle, je vous rends propriétaire des Canaan. Papa, pourquoi le pain vous avez? Mais il sait que par la foi, il a ça. J'aimerais dire, ce que vous avez réellement, c'est ce que vous avez par la foi.
Amen.
Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. J'aime la suite. Qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. La foi est un moteur. Tous ceux qui ont des enfants mâles, ces enfants doivent être tués. Mais non, cet enfant, il est beau et nous croyons qu'il a un destin. Nous n'allons pas. La foi est un moteur. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a quitté le confort de l'Égypte. Il croit que son destin est en dehors de cet endroit. Moïse, tu es au sommet de la société. Si tu quittes, je ne sais pas, mais un destin plus grand m'attend. La foi est un mot. Je terminerai tout à l'heure avec un merveilleux exemple et nous allons terminer par la prière. Verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être frais de la colère du roi. J'aime la fin, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Un vrai moteur. Troisième et avant-dernier principe. La foi, là où elle est toujours visible. La foi est visible. Actes des Apôtres, chapitre 4, 14 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 9. L'apôtre Paul se retrouva à un endroit où il veut prier. À Lystre, c'était né assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Quelqu'un a dit la foi, c'est comme un parfum. On peut sentir son odeur. Elle est là. Jamais cachée. Et je termine avec le tout dernier principe. La vraie foi amène à l'action et amène à prendre des risques. La vraie foi amène à l'action et à prendre des risques. Et parler des risques, c'est de parler des possibilités de subir des dommages. J'aimerais vous encourager. À l'Occident, vous avez été influencé par Descartes. Tout est ramené à la raison. Vu que, entendu que syllogisme parfait. Mais j'aimerais dire, ne soyez pas des croyants européens. Soyez des croyants bibliques. Ne prenez pas trop la température d'ici. Dans la foi, il y a un grain de folie. Un grain de folie. La vraie foi amène à l'action et au risque. À force d'être ici, vous êtes trop cartésien. La foi ne fait pas de nous des bigots. Frère, même si on vient à l'église, il faut avoir les deux pieds sur terre quand même. Des fois, nous voulons avoir toutes les assurances pour faire certaines choses. C'est bon. Mais quelquefois, il faut avancer avec Dieu. Avancer. La vraie foi nous fait prendre des risques. Hébreux 11, verset 23.
avons lu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y retourne avant de terminer. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Il y avait un ordre, mais ils sont allés à contre-courant. Parce qu'ils avaient une conviction. Et quand ils ont vu cet enfant devenir ce qu'il était devenu, ils disent, waouh, heureusement que nous avons pris ces risques. Esther, chapitre 4, verset 16. Esther dit, je jeûnerai, je prierai. Écoutez ce qu'elle dit. Et je me présenterai auprès du roi, malgré la loi. Elle dit, si je dois périr, je périrai. Remarquez qu'elle n'est pas sûre des résultats, mais elle est sûre de ce qu'elle doit faire. J'aime beaucoup ce que le feu pasteur Vernon disait un jour. Il dit, la foi, ou plutôt le courage. Il disait, le courage, ce n'est pas l'absence de tremblement. Mais il dit, le courage, c'est avancer en tremblant. Je tremble, mais j'avance quand même. Je vais me présenter malgré la loi. Qu'il y ait des choses que nous manquons parce que nous voulons avoir toutes les assurances au départ. Quand Esther avançait vers le roi, son cœur battait à la chamade. Parce qu'à l'époque, on avait peur de coups d'État et des assassinats. Si le roi ne t'a pas appelé, il est possible qu'on te tue. Est-ce qu'il va me recevoir? Mais bizarre, là où il y avait la crainte de la mort, la moitié du royaume lui a été proposée. On ne peut jamais savoir qu'on aura la moitié du royaume tant qu'on n'a pas avancé. Que des gens qui ratent la moitié du royaume parce qu'ils voulaient avoir toutes les assurances au départ. Et quand je préparais ce message et que j'arrivais à ce point, Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner ce matin, il y a plusieurs dans le cœur desquels j'ai déposé des pensées. Et j'aime dire souvent, nous pentecôtistes, nous aimons trop entendre des voix. Trop des surnaturels. Le surnaturel existe, mais tout n'est pas surnaturel. Ça me rappelle une retraite qu'on avait en 90 à Gombe. On était en train de prier dans une famille. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, parle-nous. Et on a entendu un ami qui a crié Namoni Mouinda. Et quand on a ouvert les écoles, on s'est rendu compte qu'il y avait une maison juste en haut. C'était une sorte de phare qu'on était en train de faire bouger. Et ça arrivait à son niveau. Et comme il avait les yeux fermés, il croyait que c'était surnaturel. Rien n'est surnaturel. Tout était naturel. Quelquefois, Dieu ne parle pas. C'est une conviction. Matthieu 9, verset 20 à 21, cette femme avait une perte de sang. Elle a vu Jésus passer, elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de son vêtement. Et vous savez combien de fois quand nous voulons oser aller dans une certaine direction, on veut d'abord se rassurer, ce que je vais faire, est-ce que quelqu'un avant moi l'a fait, ça a marché. Touche simplement. Et une voix pouvait lui dire, qu'est-ce qui t'a dit que ça va marcher? Toi aussi. Est-ce qu'avant toi, quelqu'un a touché les pans de son vêtement? Et j'aimerais dire des fois, Dieu fait de nous des pionniers. Alléluia. Les pionniers n'ont pas des références, mais ils deviennent des références. Amen. Vous osez faire quelque chose, les gens disent, waouh! Je termine avant qu'on ne puisse prier. Un jour de 2005, je parlais avec le feu pasteur Vernon au bureau et il pleurait. Il me disait, Roland, je suis un homme heureux. Il disait, si Dieu décide de me prendre aujourd'hui, je dirais, ma vie valait la peine. Il m'a dit, je suis né vers les années 30 au Gabon. J'ai grandi timidement. Mais une belle chose qui est arrivée dans ma vie, c'est qu'en vers les années 52, 53, une jeune fille a quitté la Hollande comme missionnaire et est venue au Gabon. Et elle est devenue mon épouse, Johanna Verneuil. Elle dit, Roland, tu n'as aucune idée combien cette jeune femme a changé ma vie. Il dit, en 5 ans, fin 58, début 59, on nous a envoyés comme missionnaires au Congo-Brazzaville. Et nous nous sommes retrouvés au Congo-Brazzaville fin 59, début 60. Nous avons travaillé 60, 61, 62. Mais dès à partir de 62, nous avons commencé à traverser à Léopoldville. La première fois que nous sommes arrivés à Léopoldville, une voix m'a dit, votre place est ici. Il dit, début 63, je suis allé voir les responsables des assemblées de Dieu. Je leur ai dit, si vous nous aimez, accepter que nous puissions traverser le fleuve et que nous allions travailler de l'autre côté. C'était les Assemblées de Dieu de France. Et lui, on dit, si tu traverses de l'autre côté, nous coupons toute aide. Soit tu restes ici et tu as l'aide, ou soit tu vas de l'autre côté, tu n'as rien. Et ils ont commencé à prier avec son épouse. À deux reprises, Dieu leur a dit, traversez de l'autre côté. Il a dit, début 64, un jour, ils sont venus en France, c'était à Grenoble, et mes souvenirs sont bons. Ils sont venus dans une petite église pentecôtiste, moins de 50 personnes. La première fois, ils entrent en pleine louange et adoration, et puis il y a eu un silence. Une vieille dame de 80 ans
fait sortir une parole. Il dit, je vois un couple, ils viennent de l'Afrique, d'une ville séparée d'une autre ville par le fleuve. Il dit, Dieu dit, traversez de l'autre côté. Il a dit, Roland, ces jours-là, nous sommes sortis, on dit, on va prendre des risques. Ils sont allés voir le responsable des assemblées de Dieu, ils ont réitéré la même demande, ils leur ont dit, si vous allez, nous coupons l'aide. Il dit, Roland, en avril 64, j'avais mes valises avec ma femme et mes trois enfants, mes trois filles, aide coupée. Il dit, Roland, ça a été dur de 64 à 72. Il y a des jours, je me posais la question, suis-je à l'endroit voulu par Dieu? Vous savez, quand vous êtes à l'endroit voulu par Dieu, c'est pour ça que je disais dès le départ, de la germination, des fois, c'est un processus. Il dit, T.L. Osborne est venu au Congo, je l'ai interprété, et il m'a introduit auprès d'un autre, qui m'a introduit auprès des assemblées de Dieu des États-Unis, et ils m'ont pris en charge. Et je suis devenu un missionnaire supporté par les districts de Kentucky. Et ces jours-là, quand il parlait en 2006, il dit, aujourd'hui, derrière moi, il y a cette grande église où chaque dimanche, il y a plus de 5000 personnes. Et quand j'ai fini de prêcher à midi, plus de 6 millions suivent les messages à la télévision, sans compter la radio. J'ai au moins une trentaine d'églises disséminées au travers du pays. Il dit, quand je regarde, je dis, Seigneur, merci de m'avoir permis de prendre les risques en 64, et d'avoir écouté, et d'avoir osé aller dans une direction. Ce dimanche matin, j'aimerais simplement vous inviter à baisser vos têtes dans la prière. J'ai parlé de but, mais j'ai parlé surtout de la foi. Dieu m'a mis à cœur simplement de faire une prière toute simple. Et que vous-même, peut-être à la maison, vous allez arroser cette parole. Seigneur, j'ai essayé avec autant de maladresse qui sont souvent mon lot et mon partage. Parler de ces choses. J'ai la ferme conviction que l'éclosion est attachée non seulement à une personne, mais à cette œuvre. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas son but, le pourquoi de son existence, fais-le-lui savoir. Et j'ai appris avec toi ce qui est dans la mesure où nous te connaissons, que tu nous fais connaître notre but. Aide quelqu'un à te chercher jusqu'à ce que tu lui dises qui il est, ce que tu attends de lui et ce que tu veux qu'il accomplisse. Mais cette fin de matinée, plus que jamais, je prie que tu restaures la foi dans le cœur de quelqu'un. La vraie foi, la foi authentique, la foi biblique, celle qui pousse à l'action. Celle qui fait prendre des risques. Encore une fois, Yaka Molimo, Sopana, Sopana, Netola. Jesus, salva, beriba, Pasteur Guico Bideux se mettre à mes côtés, il va prier tout à l'heure. J'ai à cœur de lancer trois petits appels. Le tout premier, Dieu m'a demandé que l'on puisse prier pour des hommes et des femmes qui, comme cette femme qui avait la perte de sang.